Tout comme nous l'a décrit Pierre-Éric avec Carrefour, à Sanofi ainsi que dans toutes les grandes entreprises, les conditions de travail se dégradent. D'ailleurs, tout à l'heure, un camarade m'a transmis cela, je vais vous lire. Une trentaine de facteurs du bureau de Rungis se sont mis en grève, sans prévenir. Vendredi matin 9 mars, trop de réorganisation de tournées avec moins de personnel, trop de charges de travail. Bref, trop c'est trop. Et ils ont décidé de se mettre en grève le lundi qui vient. Et un des mots d'ordre qu'ils ont, il faut que la colère soit contagieuse. Et ils ont tellement raison. À Sanofi, où je travaille, on fabrique des médicaments. Pas parce qu'ils soignent, mais d'abord et avant tout parce qu'ils se vendent et qu'ils rapportent gros. En 2017, le chiffre d'affaires a été de 35 milliards d'euros et le bénéfice de 8,4 milliards, comme je vous ai dit tout à l'heure. Pour les actionnaires, tout va bien, d'autant que de tels profits durent depuis des années et des années. Mais pour nous, pour les salariés, depuis 5 ans, les augmentations générales, c'est 0%. À Vitry, la charge de travail est de plus en plus importante. Pour y faire face, pas d'embauche. Mais nous sommes chacun devenus polyvalents, multitâches. Régulièrement, des salariés, des collègues pètent un câble, s'effondrent. Et ça risque de ne pas s'arrêter là. Récemment, la direction nous informait à propos d'un médicament dont le prix de revient est aujourd'hui d'environ 300 euros le gramme, qu'il allait falloir améliorer la productivité pour qu'il tombe à 100 euros le gramme. Et la productivité, c'est nous. C'est notre santé que la direction démolit dans sa machine à faire du profit, alors que des milliers de jeunes sont réduits au chômage. D'année en année, le grand patronat a partout fait bondir son taux de profit, car partout, il a renforcé l'exploitation, accru le pillage des caisses publiques. Il le poursuivra, il ne renoncera jamais de son plein gré à ses profits. Tant qu'il n'y a pas de contestation du côté du mouvement ouvrier, il poussera son avantage, il profitera du rapport de force qui lui est favorable. Pour que cela change, il faudra que les travailleurs défendent leurs intérêts contre le grand patronat. Toute l'histoire du mouvement ouvrier montre que les travailleurs n'ont jamais rien obtenu autrement que par les luttes. Il y a 50 ans, en mai-juin 68, c'est la grève générale qui fit lâcher à De Gaulle une augmentation du SMIC de 30% et provoqua en moyenne une augmentation des salaires réels de 10 à 20%. En juin 36, c'est la grève générale qui imposa à un patronat tremblant devant les occupations d'usines la semaine de 5 jours, les 40 heures, les congés payés et les conventions collectives. Comme le disait Pierre-Éric, bien des travailleurs, et c'est le cas de nos camarades de travail, c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, ne croient pas en la possibilité de telles luttes aujourd'hui. Quand il y a 5 millions de chômeurs et des millions d'autres qui sont condamnés à des petits boulots, précaires ou sous-payés, la lutte collective est en effet plus difficile. Mais rappelons-nous, les mobilisations des années 30, où le chômage à précarité était la règle, montrent que ces obstacles peuvent être renversés. Je dis ça parce que la crise et le chômage n'expliquent pas tout. Il y a aussi le désarroi politique causé par les espoirs qui ont été placés dans les partis de gauche. Il y a ce sentiment de trahison et d'amertume qui conduisent beaucoup de travailleurs, trompés par l'électoralisme des partis de gauche, à ne plus croire en rien. Contre cette démoralisation, il n'y a pas de miracle. Il faut un parti qui représente les intérêts des travailleurs. Partout, dans nos quartiers, dans nos entreprises, il faut des femmes et des hommes qui s'opposent aux divisions des travailleurs, qui affirment avec la force de notre camp, qui redonne à notre classe sociale la confiance et la conscience d'être celle qui fait tourner toute la société. Il faut reconstruire un parti sur les bases des idées de lutte de classe, sur la base des idées socialistes et communistes telles qu'elles étaient à l'origine. Les travailleurs n'ont pas besoin d'un énième parti de gauche qui leur ferait croire que leur sort peut changer avec les élections, par la magie d'un bulletin de vote. Les véritables maîtres de la société, les capitalistes, ne sont pas élus. Quant à celui qui est élu à la tête de l'État, ce n'est pas lui qui dirige. Il n'est que le valet des Bernard Arnault et autres grands bourgeois. Ce parti à construire doit se revendiquer des idées communistes et révolutionnaires. Il ne faut pas seulement limiter l'exploitation, il faut la supprimer, en contestant la bourgeoisie la direction de la société, c'est-à-dire en l'expropriant. Ce n'est pas qu'une question de justice sociale, c'est la survie même de l'économie et de la société qui est en jeu. La bourgeoisie nous est toujours présentée comme une classe sociale indispensable, la seule qui serait en mesure d'entreprendre et d'investir. C'est d'ailleurs au nom de l'investissement que tous les gouvernements font des cadeaux à la bourgeoisie, soi-disant pour l'inciter, lui donner envie d'investir. Mais au bout du compte, elle encaisse les cadeaux et on attend toujours les investissements. La bourgeoisie est une classe sociale de plus en plus parasitaire. Non seulement elle tire sa fortune exorbitante de l'exploitation des générations, de générations de travailleurs, mais elle ne se donne même plus la peine de développer la production. Excusez-moi. Son activité principale consiste aujourd'hui à boursicoter, à spéculer sur les marchés financiers. Parasitaire, pas seulement. La bourgeoisie est aussi dangereuse et criminelle. On a eu la vache folle, le Mediator, les protestes PIP, les moteurs truqués de Volkswagen, Renault et PSA, le lait pour bébé de Lactalis empoisonné à la salmonelle, le vaccin de Sanofi contre la dengue, bientôt. La bourgeoisie est dangereuse parce qu'elle a érigé le profit en un dieu tout-puissant et elle l'est dans tous les domaines, le transport, l'agroalimentaire, la santé, le nucléaire, et ce sera la règle tant que la bourgeoisie sera aux commandes. Et cela, c'est sans compter les menaces guerrières, le terrorisme, ainsi que les catastrophes écologiques qu'entraîne le dérèglement climatique. Il faut construire un parti qui vise le renversement du capitalisme et la construction d'une société qui vise la construction d'une économie débarrassée de la concurrence, de la loi du profit, qui vise la construction d'une société sans classe, d'une société communiste. Nous militons pour que les travailleurs défendent leurs intérêts et pour qu'ils accèdent à la conscience que la tâche de transformer la société dépend d'eux et qu'ils en sont capables. On entend souvent dire que sans la bourgeoisie, rien ne se ferait car c'est elle qui entreprend, qui sait diriger. Mais dans la majorité des cas, elle ne dirige rien, elle encaisse. Pour diriger ces entreprises, elle paye du haut en bas de la hiérarchie toute une armada de mercenaires obsédés par la rentabilité. Et c'est sur les ouvriers, les employés, les comptables, ceux qui sont au bas de l'échelle, sur qui retombent les conséquences de leurs décisions, souvent absurdes. Dans les entreprises, ce sont les travailleurs qui connaissent le travail, résolvent les problèmes techniques et qui font tourner la boutique. Mais comme on nous répète sans cesse qu'il faut des patrons pour diriger, les travailleurs doutent de leur capacité collective. Et c'est la même chose à l'échelle politique. On nous rabâche tout le temps que pour faire tourner l'État, il faut faire des hautes études, appartenir aux élites, que certains seraient qualifiés pour diriger, qu'il faut les laisser faire. Eh bien non, il faut s'opposer à cette idée-là. Oui, les travailleurs et les classes populaires sont tout à fait capables de diriger cette société. Prenez les salariés des EHPAD qui se dévouent aux côtés des anciens pour un salaire de misère. Prenez les ouvriers qui s'esquintent la santé sur les chantiers du bâtiment, des travaux publics. Prenez ces ouvriers des chaînes de montage. Prenez les bataillons du nettoyage, du gardiennage, de la grande distribution. Ces femmes et ces hommes savent ce que cela veut dire de devoir se serrer la ceinture. Ils représentent mille fois mieux la vie et les intérêts de la majorité de la population. Nul doute que s'ils accèdent au pouvoir, ils auraient, eux, pour priorité de satisfaire les besoins de l'essentiel de la majorité. Et tous les problèmes qui apparaissent aujourd'hui comme insolubles, se loger, se soigner, donner un travail et de l'éducation à tous, accueillir les migrants, toutes ces difficultés que la classe ouvrière rencontre trouveraient une solution. Alors vive les luttes des travailleurs, vive les idées communistes révolutionnaires, vive l'internationalisme. Alors avant de se mettre à table et de chanter, comme de coutume le chant des travailleurs, l'international, j'aimerais vous rappeler que nous avons deux rendez-vous. Jeudi prochain, jeudi 15 mars, pour les moins jeunes d'entre nous, c'est que j'en pense à quelques-uns que, dans la salle, il y a la manifestation des retraités et des salariés des EHPAD. Puis le 22 mars, comme nous l'avons dit Lucien et moi, la manifestation de la fonction publique, dont il faudrait faire le point de départ d'une mobilisation contre ce gouvernement et ses mauvais coups.